Chapitre 22. Dès que la nuit protectrice fut tombée sur Orogang, les portes du palais se rouvrirent et ceux qui se cachent s'adonnèrent aux tâches qu'ils accomplissaient depuis des siècles, sans que leur combat contre les Is touche à sa fin malheureusement. Errant dans les rues, Nietzsche se mit en quête de quelque chose qui pourrait lui servir. Le nuage noir était dangereux, elle n'en disconvenait pas, mais elle ne pouvait pas rester en ville. Contrairement au spectre, elle ne se contentait jamais d'attendre. La Slif faisant toujours la sourde oreille, la magicienne allait devoir se procurer des vivres et se mettre en route. Le voyage lui prendrait très longtemps, elle en avait conscience, mais pour vaincre Outros, elle n'avait pas d'autre option. Devant la statue du héros, une vingtaine d'hommes et de femmes s'entraînaient à l'escrime avec les épées étincelantes. Nietzsche les observa d'un œil critique. Trop habitués à ferrailler entre eux, avec les mêmes bottes et les mêmes parades, ils ne vaudraient pas un clou face à un véritable ennemi. Si Cyrus et ses fanatiques se ralliaient à Outros, s'avisa-t-elle, ils deviendraient ses ennemis. Ces pauvres gens ne comprenaient pas leur propre légende. Toute la nuit, la magicienne fouilla les rues, les places, les ruelles et même les allées. Passant par le puits de la Slif, elle réitéra ses appels avec l'insuccès habituel. Perchée en haut des gradins du grand amphithéâtre, elle imagina Kourgan, en bas, en train d'écorcher Magelle vive, puis de lâcher des fourmis rouges sur ses chairs martyrisées. Comment s'étonner que le peuple se soit insurgé, renversant le tyran et détruisant sa statue? Soudain, la magicienne sentit une autre présence sur le site. Une créature puissante et dangereuse. Assez menaçante en tout cas pour qu'elle dégaine un de ses couteaux lorsqu'une ombre fuselée sauta sur une des colonnes écroulées. La panthère sauta sur Nietzsche qui eut juste le temps d'ouvrir les bras en grand. Renversant l'humaine, Mara lui lécha le visage avec sa langue râpeuse. Folle de joie, Nietzsche passa les bras autour de l'encolure de sa sœur féline, puis elle l'écarta, se releva et sourit tandis que son amie se frottait contre ses jambes, manquant la renverser de nouveau.
« Mara, tu es là !»
Nietzsche étreignit de nouveau la panthère. Ces derniers temps, après une série d'épreuves et de deuils, elle avait besoin de consolation comme jamais et voilà que Mara la lui apportait.
« Ma sœur, j'ai du mal à imaginer tout le chemin que tu as parcouru. »
Captant des mouvements plus loin sur la place, Nietzsche comprit que Mra n'était pas le seul félin en ville. Il y en avait une dizaine d'autres au moins, dont les yeux brillaient dans les ombres. Même si Mra les avait convaincus de devenir sa troupe, ils n'approcheraient pas pour le moment en tout cas.
« Mra, les habitants de cette ville sont mes amis, mes alliés même. Vous ne devez pas leur faire de mal ni les chasser. »
Avec un peu de chance, Mara comprendrait et passerait la consigne à ses compagnons. Alors que des appels montaient de toute la cité, Nietzsche vit que le ciel s'éclaircissait à l'est. L'aube approchait. Le sort terrible des serfs.
Il ne fallait pas que... Mara, nous devons nous réfugier à l'intérieur. Toi, tu viendras au palais avec moi, mais tu dois dire à tes amis de se cacher aussi.
Nietzsche pensa très fort au nuage noir meurtrier qui apparaissait au lever du jour. En principe, les panthères se cachaient pendant la journée, mais il fallait que ce soit bien clair dans leur esprit.
« Dis-le leur, Mara, c'est très important. »
Dès que la sœur féline de Nietzsche eut rugi à leur intention, les autres panthères jetèrent un rapide coup d'œil à la magicienne, puis elles filèrent à la recherche d'abris inexpugnables au cœur des ruines. Avec Mara, Nietzsche prit le chemin du palais. Dès qu'ils aperçurent la panthère, Cora et les spectres qui l'accompagnaient firent mine de lui interdire d'entrer.
« Elle est avec moi !» dit Nietzsche. « Vous n'avez rien à craindre. »
Alors que le soleil pointait derrière les montagnes, Nietzsche invita Mra à la suivre. Partout à Orogang, des battants se fermaient et des barres de fer tombaient en place pour les bloquer. Sans perdre une seconde, les spectres de Kohra poussaient déjà les portes du palais. Par l'entrebâillement, Nietzsche aperçut le nuage tueur. Mra, montrant les crocs, elle dut la tenir pendant que les spectres mettaient la barre en place. Mara détesta être coincée à l'intérieur. En elle, le souvenir des tortures infligées par Ivan était toujours présent, et Nietzsche, à travers le lien, capta des images déchirantes. Encore bébé, la panthère prisonnière griffait et mordait les barreaux de sa cage, la haine au cœur. En ces temps sinistres, le seul moment où elle se sentait libre, comme ses sœurs, c'était quand on la lâchait sur une proie dans l'arène. La liberté, c'était dehors, jamais entre quatre murs. Certaine que les Is viendraient aisément à bout de sa sœur féline, Nietzsche la caressa, sentant sous ses doigts les runes gravées au fer chauffé au rouge.
Je dois te protéger, fais-moi confiance. »
Ce matin, ceux qui se cachent semblaient tendus et inquiets, mais ça n'avait rien à voir avec la présence de Mra. Non, ils se préparaient à faire quelque chose que Nietzsche n'avait pas encore vu. En marmonnant, un groupe de spectres approcha des portes fermées. Au passage, la jeune Asha croisa le regard de la magicienne, puis elle se hâta de suivre les autres. Intrigué, Nietzsche leur emboîta le pas. Devant les portes fermées, un homme d'âge moyen attendait la procession. Les yeux tristes, il semblait accablé. Mais il se reprit et avala un morceau de mousse empoisonnée pour se donner du cœur au ventre. Les spectres le regardaient avec une étrange vénération. Plusieurs approchèrent pour lui toucher le bras.
« Merci, Cal. Nous t'avons toujours apprécié, Cal. »
Une femme embrassa l'homme sur la joue.
« Cal, je... »
Elle ne put pas dire un mot de plus. Nietzsche n'y comprenait décidément rien. Comme en transe, Cal finit de mâcher sa mousse, puis il se tourna vers la porte. Deux spectres vinrent retirer la barre. Nietzsche comprit enfin. Cal allait sortir en plein soleil. Mra grogna et agita la queue, mais la magicienne posa une main sur sa fourrure pour la calmer.
« Qu'est-ce que ça signifie ? » demanda-t-elle à Cora. « Vous le laissez sortir ? Et les Is ?»
Des larmes aux yeux, Cora se tourna vers la magicienne.
« Nous devons faire ça tous les mois. C'est le seul moyen de contenir les Is. »
Les deux hommes ouvrirent la lourde porte, laissant entrer une colonne de lumière. Très digne, Cal se tourna vers ses amis.
« Adieu. Je... »
Incapable d'en dire plus, il releva sa capuche comme s'il allait affronter une averse, puis se rua dehors. Ceux qui se cachent approchèrent de la porte pour le suivre du regard. À quelques pas du palais, Cal s'immobilisa comme s'il s'émerveillait de voir la lumière du jour. Puis il abaissa sa capuche et inclina la tête en arrière pour l'exposer au soleil. Ébloui, il cligna des yeux, un grand sourire sur les lèvres.
« Pourquoi se sacrifie-t-il ? »
demanda Nietzsche. Pour se retenir d'aller le chercher, il lui fallait mobiliser toute sa volonté.
« Et à quoi ça sert ? Les Is boiront son sang. »«
C'est le but, oui. »
D'un pas tranquille, Cal approcha de la statue renversée de Kourgan. Se prenant les pieds dans sa longue tunique, il décida de la retirer. Sa peau blafarde réchauffée par le soleil, il écarta les bras, sourit et s'écria.
« C'est ma récompense. Le soleil est une bénédiction. »
Dans le palais, tous les spectres se turent. Puis un bourdonnement retentit, faisant frissonner Nietzsche et arrachant un nouveau grognement à Mra. Entre les bâtiments, le nuage approchait. Masse compacte de prédateurs plus noirs que la nuit. Désireux de s'enivrer encore de soleil, Cal ferma les yeux pour ne pas voir approcher sa faim. Assoiffés de sang, les Is piquèrent sur leur proie.
« Ils le videront de son sang, »
souffla Nietzsche.
« Et quand ils se nourrissent de sang humain, ils se multiplient à toute vitesse, m'avez-vous dit ?»«
Du sang humain, oui, mais pas le nôtre, »
répondit Cora.
« Regarde !»
Vorace, le nuage tueur fondait sur sa future victime. Les yeux rouverts, Cal serra les poings et défia les Is de la voix. Sans avoir besoin d'un stimulus, ils s'abattirent sur le pauvre homme, l'enveloppant comme il l'avait fait avec les serres. Très vite, Cal ne fut plus qu'une silhouette noire. Battant des bras, il tomba à genoux, puis s'étala face contre terre. Appâté, d'autres Is se joignirent au festin. Du coup, le bourdonnement doubla de volume. Une fois rassasiés, les prédateurs individuels gorgés de sang s'écartaient de Cal et reprenaient de l'altitude. Bientôt, le nuage entier en eut terminé. Mais au lieu de s'éloigner en quête d'autres proies, comme après la cruelle fin des cerfs, il resta en suspens et se décolora. Le sang de Cal prit une teinte marron puis violette. Affolés, les prédateurs volaient à présent dans tous les sens, mais ils commencèrent à exploser comme des pustules. Sur les dalles de l'esplanade, une pluie brunâtre s'abattit. Jusqu'au dernier, tous les Is qui s'étaient repus de Cal éclatèrent comme des fruits trop mûrs.
« Grâce à la mousse que nous mangeons toute notre vie, » expliqua Cora, « notre sang est un poison pour eux. Pris individuellement, les Is n'ont aucune intelligence.
Ils obéissent à leur instinct, c'est tout. En jouant sur cette faiblesse, nous contenons les saints. Aujourd'hui, Kaal en a tué beaucoup. Chaque mois, nous choisissons un nouveau héros pour affaiblir les saints. Pendant quelques jours, les Is se souviennent du piège, puis ils oublient.
Nietzsche suivit du regard la débandade du nuage dont les rares survivants fuyaient à présent le corps momifié de Kaal.
« Ceux qui se cachent se sacrifient depuis toujours, » reprit Cora. « Un jour, c'est moi qui tirerai le jeton fatidique, et je sortirai pour imiter le glorieux exemple de Kaal. Notre seul espoir, c'est de rester assez nombreux ici pour empêcher les Is d'aller ailleurs. »
Quand une extension saine du nuage se dirigea vers le palais, les deux hommes fermèrent la porte et remirent la barre. Les yeux brillants, Asha se campa devant Nietzsche.
« C'est notre devoir, même si personne dans le monde ne sait ce que nous faisons. »«
Moi, je le sais désormais, » dit la magicienne. « Mais vous ne détruisez pas les Is. Tant qu'à vous sacrifier, pourquoi ne pas sortir en masse? Si chacun fait autant de dégâts que Kaal, 50 héros devraient venir à bout du nuage. »
« Nous y avons déjà pensé, » dit Cora. « Certains Is se laissent abuser, mais les autres s'enfuient. Ça fait beaucoup de morts chez nous et pas assez chez eux. »
Des sillons de larmes sur les joues, Asha tira sur la manche de Nietzsche.
« Tu es une grande magicienne, pas vrai? Peux-tu nous aider à détruire les Is? Ou nous abandonneras-tu à notre sort ?»
De plus en plus agacée par des gens qu'elle jugeait passifs, Nietzsche avait presque décidé de partir à pied. Bien sûr, il restait Outros et ses troupes, mais les Is, à leur façon, étaient au moins aussi dangereux. S'ils quittaient Orogang et se répandaient dans le reste du monde, leur nombre augmentant sans cesse, ce serait un désastre, y compris pour le général et ses hommes qui ne résisteraient pas mieux que quiconque d'autre. Mais ce n'était pas une consolation, bien sûr. Nietzsche se souvint des mots écrits par Rouge dans le livre de vie de Nathan. « Et la magicienne devra sauver le monde. » Cette mission, elle l'avait acceptée pour des raisons très personnelles. Grâce à Richard, qui lui avait montré une nouvelle façon de vivre et de penser, son cœur de glace noire avait assez fondu pour qu'elle soit capable d'aimer et de servir. Et la magicienne devra sauver le monde. Ses nouveaux amis la regardaient plein d'espoir.
« Je trouverai un moyen, »
dit-elle d'un ton qui ne laissait aucune place à l'hésitation ni au doute. Quand elle décidait d'accomplir l'impossible, elle réussissait en règle générale.
« Oui, je trouverai un moyen. »